9h10, je cède la parole à Louis Dauphren et je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain matin à 6h30. Bonjour Louis Dauphren.
Merci Étienne et puis bon pied bon oeil demain matin.
Exactement.
Pour une nouvelle page d'info que vous aurez tout le loisir d'ouvrir à 6h30 puisque vous nous écoutez dès 7h6. Merci Étienne.
Le débat du jour.
Eh ben oui, on y va.
Allez, c'est
tout
parti.
RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour.
Un débat du jour qui va nous emmener sur le rivage de l'enseignement catholique dans le collimateur d'une enquête parlementaire sur les abus à l'école. Vous savez, c'est un chapitre important qui a été ouvert avec la séquence Betaram. On ira aussi à Gaza. Quelle place pour un équilibre dans la rhétorique sur ce sujet tel qu'il est présenté dans les médias? Parce que la chose nous préoccupe évidemment du point de vue humain, mais aussi du point de vue médiatique. Comment présenter les choses pour qu'elle soit équilibrée. Et puis le bonheur, on en parlera puisque c'est une journée qui lui est dédiée. Qu'est-ce à dire précisément, en particulier pour un chrétien, que le bonheur? Voilà les trois sujets. Et les deux débatteurs, puisque c'est le principe, tous les matins. Deux personnes qui échangent, s'écharpent éventuellement, mais ça reste courtois sur notre antenne. Ouf. Bon oui, le père Arnaud Alibert, rédacteur en chef au journal La Croix. Bonjour père.
Bonjour.
Et Philippe Guébert, ancien directeur du service d'information du gouvernement, essayiste et chroniqueur. Bonjour Philippe.
Bonjour.
On va commencer par cette histoire de Notre-Dame de Betaram, parce que c'est une séquence qui s'est ouverte il y a quelques semaines. Les deux co-rapporteurs de la commission d'enquête parlementaire sur le contrôle des établissements scolaires par l'État, on a vu, hein, ils ont saisi mardi de nombreux documents extrêmement intéressants au sein de l'ex-Notre-Dame de Betaram, dans les Pyrénées-Atlantiques, et dans les archives scolaires diocésaines, sans obtenir néanmoins tous les dossiers souhaités. Il y a donc une inspection qui nous dit que les choses peut-être s'accentuent, s'intensifient, et aussi qu'elles s'élargissent, puisqu'il y a aussi d'autres établissements où des souvenirs émergent de la part de victimes, un petit peu partout en France d'ailleurs, Philippe. Hein.
Oui, effectivement, ce genre de tragiques affaires, en général...
SM.
SM, par mimétisme... Et aussi parce que les souvenirs ne sont exprimables souvent que de 20 ans après, de la part des victimes. Et donc plus généralement, je trouve que l'enseignement soit public ou privé, d'ailleurs, c'est pas un problème spécifique à l'enseignement privé. Il est bien évident que l'État doit contrôler autant que possible les établissements d'enseignement scolaire pour repérer, prévenir des situations d'abus qui font des drames et des désastres.
Mais là, l'attention se focalise quand même sur des établissements privés, hein, Notre-Dame.
Oui, bien sûr, et sur les établissements et les établissements catholiques.
Dans les Hautes-Pyrénées, il y a aussi Abondance, en Haute-Savoie, etc.
Oui, mais je pense que je resituerai ça dans un contexte plus général où l'évolution de l'enseignement en France fait que beaucoup de gens vont vers le privé, puis forcément pour des raisons religieuses. Le privé, c'est principalement catholique en France. Et donc, l'État, le ministère de l'Éducation, face à ce qui est quand même une forme d'échec du public, hein, parce que si autant de gens vont dans le privé, c'est aussi par déception ou par rejet de l'école publique. L'État est un peu pris à son propre piège, hein, et du coup doit se préoccuper de l'enseignement privé. Il y a une pression, il y a parfois une volonté de... un peu de revanche, entre guillemets, de sur l'enseignement privé, qu'on cherche à, non pas à discréditer, mais en tout cas, dont certains veulent souligner qu'elle n'est pas si bien que cela.
Ah, et je ne sais pas si les
le père Alibert va vous répondre, père.
Oui, enfin, il y a peut-être un petit peu de ça, mais d'abord, ce qu'il faut regarder, c'est que donc, les faits sont anciens, donc antérieurs, à la logique actuelle qui est de difficulté de l'école publique. Hein. Donc, on est sur un mouvement plus large. On est sur un mouvement aussi qui concerne toutes les régions. Donc, on a cité déjà abondamment Notre-Dame de Garaison et Betaram. Mais il y a aussi la Savoie, vous le disiez. Il y a en Bretagne, il y a à Neuilly-sur-Seine, il y a en Seine-et-Marne, etc. Donc, on est sur des... un phénomène en fait qui est plus lié donc à un type de structure, et ce type de structure, c'est essentiellement des structures avec internat. Or, c'est vrai que l'internat est un internat souvent confessionnel, parce que la culture de l'internat est demeurée plus longtemps dans l'enseignement catholique que dans l'enseignement public, pour des tas de raisons, et en particulier pour la raison de la... on va dire de la... de la disponibilité d'un personnel qui était prêt à vivre cela, et puis ainsi que les infrastructures. Ceci étant dit, là on est en phase d'une reconquête par l'État d'un terrain qu'il n'aurait jamais dû abandonner, c'est celui du contrôle. Ouais. Quand on entend ce qu'on entend, c'est-à-dire que de l'avis même du président de la Fédération des OGEC, les contrôles ne sont pas faits, quand on entend le ministère qui dit au rythme actuel il faudrait 1500 ans pour contrôler tout le monde, c'est pas possible. Donc là on peut être que légitimement effaré de voir que la mission de base de l'État de contrôler les établissements sous contrat, hein, donc il y a un contrat,
mais l'Église pourrait contrôler les deux parties aussi ses propres établissements.
Ça c'est sûr.
Pourquoi ne le fait-elle pas ou
ben, si elle l'a pas fait, c'est une faute. Si elle l'a fait et qu'elle a fermé les yeux, c'est un crime. Bon, en tout cas, c'est une complicité de crime. Donc là, la question est renvoyée à l'Église. Mais ça n'empêche pas que, côté État, c'est absolument incompréhensible que dans le cadre d'écoles sous contrat, et je rappelle qu'un contrat, c'est synalagmatique, c'est-à-dire ça engage les deux côtés. Les parents qui mettent leurs enfants dans des écoles d'enseignement catholique ou privé sous contrat, ils ne demandent pas simplement que l'État assure les programmes et paie les enseignants, mais il appelle à ce que l'État intègre ces écoles dans une politique globale éducative et donc de sécurité des enfants. Donc il y a quelque chose qui est...
C'est à l'État d'assurer la sécurité, pour faire court.
Oui, bien sûr. Et donc là, alors, Elisabeth Borne est en train de reprendre les rênes. Il n'était plus que temps. Mais je crois que c'est après Elisabeth Belloubet aussi avait lancé... sonner le tocsin.
Nicole Belloubet.
Philippe Guibert.
Oui, vous avez évidemment raison sur le fait que l'État doit assurer ses missions de contrôle dans tous les établissements et que le privé confessionnel, en tout cas le privé sous contrat, doit faire l'objet des mêmes contrôles et des mêmes exigences que c'est dans le principe même de l'école sous contrat. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ensuite, il y a une responsabilité des établissements quand même. Je ne voudrais pas que la nécessité du contrôle de l'État, sur lequel nous sommes parfaitement d'accord, ne doit pas faire oublier la responsabilité des acteurs, quels qu'ils soient, quelle que soit la nature de l'école.
Oui, et à titre systémique et à titre personnel, hein, je crois que les deux responsabilités sont engagées.
Bien sûr, et donc il doit y avoir cette prise de conscience qu'on ne... que des abus sur des élèves qui ont encore une fois des conséquences tragiques, hein, qui peuvent, j'allais dire, gâcher une vie ou fortement l'abîmer.
Bien sûr.
Et agir sur la victime pendant des décennies.
Et par exemple, nous, on a été quand même très surpris.
Tout ça doit être quand même bien intégré, plus qu'intégré, absolument pris en compte par les responsables d'établissement, par les enseignants, et qu'il y a peut-être aussi, indépendamment de encore une fois, du statut de l'école, une politique à mettre en œuvre de prévention, de repérage, de signalisation, de façon à ce que ce type de tragédie ne soit pas simplement découverte 20 ou 30 ans après.
Au total, 60 inspecteurs supplémentaires vont être déployés en 2025 et 2026. 40% des établissements privés sous contrat seront inspectés dans les deux prochaines années. Il y en a 7190 pour plus de 2 millions d'élèves scolarisés dans les établissements sous contrat. Alors évidemment, les pensionnats, il y en a beaucoup moins. On imagine que ce sont les pensionnats qui vont être visés en premier lieu, mais on peut le supposer. La moitié par des visites sur place, la moitié de ces inspections par des visites sur place. C'est un petit peu curieux. Moi, je pensais que toutes les inspections se faisaient... par le fait même, par une visite sur place, mais apparemment, ce n'est pas le cas.
Et puis, en plus, il faut quand même continuer à être vigilant. Donc, et les parents, et puis aussi les journalistes, les différents acteurs du système éducatif sur ces contrôles. Si on considère que l'internat est contrôlé parce qu'on a vérifié la toiture, la température du chauffage et les issues de secours en cas d'incendie, ce qui est la base de la base, c'est-à-dire qu'il faut, on est bien d'accord que les enfants doivent être mis en sécurité physique en cas de drame. Ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait un contrôle, un vrai contrôle du dispositif éducatif, à la fois donc une lecture de charte et puis l'écoute des témoignages. Moi, quand je découvre cette semaine, bon, je suis pas spécialiste du domaine, mais bon, quand même peut-être assez informé, qu'il y a une application qui existe dans les établissements publics qui s'appelle Fait Établissement, qui permettait de faire remonter au rectorat et pour les faits les plus graves au ministère des faits en fait qui est liés aux élèves, et que cette application en fait n'était pas ouverte aux établissements, et que donc visiblement Elisabeth Borne a demandé à inviter les établissements, et puis un décret va les obliger à adopter ce dispositif. Moi, les bras m'en tombent. C'est-à-dire que ça fait des années que cette application marche pour le public, pourquoi on ne l'a pas appliquée pour le privé? Et il y a un certain nombre de choses où je pense qu'il faudrait arrêter de distinguer public et privé. Non pas qu'il faut fondre les deux types d'écoles, nous au contraire, gardons le caractère particulier, mais il y a un certain nombre d'éléments. Je pense donc à la sécurité, je pense évidemment à la sécurité affective des personnes, je pense à tout ce qui est cantine et parascolaire, tout ça devrait être normalisé, peu importe le caractère confessionnel ou pas des établissements.
Philippe Guibert.
Je reprends une idée que vous développez tout à l'heure sur les internats. Parce qu'il y a sans doute des dispositifs spécifiques à mettre en place sur les internats. Et c'est vrai qu'ils sont très majoritairement dans des écoles privées et catholiques pour les raisons que vous indiquiez tout à l'heure. Et donc là, il y a un dispositif à mettre en place parce que quelle est la réalité je la connais même personnellement. C'est que des enfants qui ont du mal dans l'école classique, les parents les envoient dans des internats, le plus souvent catholiques, et avec des résultats souvent tout à fait remarquables, des gamins qui ne travaillaient absolument pas à l'école et qui rentrent dans le droit chemin de l'école et qui retrouvent le goût de bosser, de travailler, le goût des études, et ça c'est absolument formidable. Et en même temps, incontestablement, ces internats supposent des dispositifs particuliers. On est vraiment là dans un exemple de ce que je disais tout à l'heure sur le succès du privé. Le privé sous contrat, hein, je parle bien du privé sous contrat, propose des services, des formes de pédagogie que le public n'est plus capable de proposer, qui est adapté à un certain nombre d'enfants qui retrouvent le goût de l'école. Et donc il faut avoir des exigences tout en préservant aussi cette capacité du privé de façon complémentaire au public, à apporter des choses que le public n'apporte pas.
Mais le risque pour vous, Philippe Guibert, c'est que ça aille trop loin, que ça mette en danger un modèle de fonctionnement qui est celui de l'internat privé catholique. Est-ce que ce système?
Je ne crois pas que des contrôles de l'État vont obérer ce système. Simplement, il faut en mesurer toute l'importance aujourd'hui dans notre système éducatif, qui n'était peut-être pas le cas il y a une trentaine d'années ou il y a 25 ans. Et qu'aujourd'hui, le développement du privé, le nombre croissant de parents qui veulent mettre leurs enfants dans le privé, témoigne d'un échec relatif de l'école publique. Alors il faudrait s'interroger par ailleurs sur les échecs de l'école publique et pourquoi l'école publique, on en connaît quelques causes. Mais je veux dire par là que le privé sous contrat est devenu un élément tout à fait central du système éducatif.
Donc pas trop taper sur la locomotive en fait, hein, c'est un petit peu
attention, ça. Attention, et les systèmes d'internat, je le répète pour le connaître personnellement, c'est un système qui n'a pas beaucoup d'équivalent, dont on ne trouve pas d'équivalent dans le public. On peut le regretter.
Vous avez été en internat
À titre personnel, non. Mais un de mes beaux enfants y est aujourd'hui, dans un internat catholique, et a des résultats absolument formidables.
À partir de quel âge, en fait, faut-il mettre ses enfants en internat? Je ne sais pas si les choses...
Souvent à l'adolescence, souvent.
Parce que c'est quand même un choix familial important.
Oui, bien sûr.
Parce que ce n'est pas simplement les études que l'on confie à un tiers.
Bien sûr.
C'est également toute la vie quotidienne. Donc c'est vraiment c'est vraiment très très engageant pour la famille qui le fait.
Oui, bien sûr.
Raison de plus pour que le cadre éducatif soit sécurisé. Donc c'est quand même... Et là, je pense qu'il y a une prise de conscience. Quand on apprend qu'il n'y avait pas de dossier Betaram au ministère avant janvier 2025. Oui. C'est-à-dire que quand les députés qui font partie de la commission parlementaire, Violette Spillebourg et Paul Vanier, sont allés au ministère et qu'ils ont récupéré les dossiers, ils ont trouvé un dossier qui ne datait que de janvier 2025. Sur Betaram, alors même qu'en 96, là c'est attesté, il y avait une demande qui avait été faite suite à une gifle et puis une enquête faite par Bayrou qui était ministre à l'époque. Ouais. Donc ouais, tout ouais. Ça c'est documenté, c'est assez public, donc il n'y aurait rien eu de choquant qu'une archive soit stockée au ministère et qu'un dossier soit petit à petit constitué. Donc là, je pense qu'on est dans une forme de prise de conscience collective avec les parents qui sont en vigilance maximale. Je pense que les choses vont beaucoup bouger. Et effectivement, ça serait assez injuste que le focus ne soit mis que sur l'enseignement privé sous contrat, parce qu'effectivement, donc ce sont en fait la justice ou la justesse du propos devrait être une attention à proportion de la présence des internats, parce qu'on sait que c'est dans les internats que c'est-à-dire au fond c'est hors temps scolaire que le risque est plus fort. Donc sans doute Les contrôles seront donc plus pour l'enseignement privé sous contrat qui dispose plus d'internats. Et encore, il faudrait regarder de près, je pense que c'est assez massif. Et puis ensuite, voir comment la commission parlementaire travaille. Non,
ça veut dire qu'il faudrait faire porter l'inspection sur d'autres éléments que l'enseignement, parce que ne pas respecter juste les professeurs, parce qu'en fait,
En tout cas, le contrôle sur la sécurité affective des enfants, des élèves, c'est pas le contrôle de l'enseignement. Le contrôle de l'enseignement peut être tout à fait légitime dans le cadre d'une école sous contrat, mais c'est pas le cœur du sujet de ce dont on parle.
À côté si
donc il faut sans doute imaginer, je suis pas allé voir toutes les modalités concrètes et pratiques des contrôles effectués, mais il faudrait sans doute imaginer pour les internats un dispositif particulier. Mais encore une fois, je ne voudrais pas qu'on jette la suspicion de façon généralisée sur les internats, qui remplissent une fonction qui est tout à fait importante pour un certain nombre d'élèves qui n'arrivent pas à entrer dans le cadre... Une fonction irremplaçable pour certains, pour des élèves qui n'arrivent pas à entrer dans le cursus scolaire normal, qu'il soit privé ou public.
Juste un dernier mot. Donc aujourd'hui, c'est le début des auditions de la commission, et on peut quand même se satisfaire que, bon, non seulement il y a l'inspecteur général de l'éducation nationale qui sera auditionné, mais il y aura aussi Jean-Marc Sauvé de la SIAZ, Marie Desrindes de Vaucresson, qui est la présidente de l'INIRC, cette instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation pour les diocèses, et Antoine Garapon, l'équivalent pour les congrégations religieuses. Donc, en fait, tout des personnalités de très haut vol qui connaissent le climat des abus, qui sauront en parler à la commission.
Et peut-être qu'une nouvelle séquence médiatique s'ouvre aussi pour l'Église, après le rapport de la SIAZ. Peut-être que l'enseignement se retrouve maintenant dans le collimateur. Père Arnaud Alibert et Philippe Guibert, on se retrouve dans un instant après les infos.